Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Nieubourg.
Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Nous allons encore une fois aujourd'hui parler data et nous allons en parler avec David Hin, qui est responsable de l'activité data chez Prodware France. David, bonjour.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de l'automatisation de l'analyse financière. Alors, c'est un sujet qui va intéresser les directeurs financiers, qui va intéresser les responsables data, qui va intéresser tous les gens qui développent des solutions. On parle parfois de RPA, Robotic Process Automation, des noms compliqués, pour expliquer finalement comment on peut automatiser un certain nombre de tâches. Alors, en deux mots d'abord, pour que tout le monde connaisse un petit peu Prodware, vous êtes un très grand intégrateur, spécialisé, on peut pas dire spécialisé parce que vous êtes dans presque tous les sujets, vous êtes dans le RP, dans le CRM, dans la BI, dans l'infrastructure, dans la productivité. Donc vous êtes intégrateur de solutions de transformation numérique, on pourrait dire ça un petit peu.
Tout à fait, on est vraiment accompagnateur sur toute la suite de la transformation digitale et on a quand même un cœur de métier historique qui est le RP, effectivement. Et le RP, ça couvre énormément de process métiers. Et après, bon, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais effectivement, quand on parle d'automatisation de l'analyse financière, effectivement, on fait un abus de langage, déjà.
Pourquoi,
et je vais rétro-pédaler pour expliquer un peu le contexte.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi un abus de langage?
Pourquoi un abus de langage? Parce que automatiser l'analyse financière, on n'analyse pas à proprement parler, c'est l'homme qui analyse. Nous, on met à disposition les moyens pour qu'il puisse analyser.
C'est finalement un peu comme quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas intelligent.
Exactement, c'est exactement la même chose.
On va rentrer dans le sujet, donc on va parler, même si c'est un peu erroné comme terme, mais c'est un raccourci d'automatisation de l'analyse financière. En fait, donc vous expliquez que on va pouvoir automatiser les remontées de données, l'agrégation des données, et ça permet d'améliorer, alors vous le dites, la fiabilité du reporting et de prendre des décisions sur les ressources et les charges d'une entreprise ou sur ses besoins d'investissement. L'aide à la décision. Je retrouvais il y a quelques jours un bouquin qui date de 1971 sur le sujet de l'aide à la décision. Je le présenterai tout à l'heure dans le courant de notre conversation. Donc c'est un sujet dont on parle depuis presque toujours, depuis en tout cas une cinquantaine d'années. On en est aujourd'hui dans l'entreprise par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils-là?
Alors aujourd'hui, juste pour recontextualiser un petit peu, hein. Il faut juste reconnaître qu'on est juste un pan sur toute la chaîne finalement d'une entreprise. Ça veut dire ce qui va être aussi important, là où on va pointer du doigt forcément le sujet qu'on cible, c'est le bout de chaîne. Okay, une fois qu'on a clôturé la partie comptable, parce que là on parle de finance. Okay, mais il faut juste reconnaître et comprendre que la partie comptable, ce n'est que le reflet de ce qui s'est passé au sein d'une entreprise, courant du mois. Ça veut dire que ça se matérialise par rapport aux actions qui sont prises tout au long du mois. Et en fin de mois, on relève les compteurs et on regarde comment, finalement, l'entreprise a travaillé. Et là où on en est, effectivement, on essaie d'automatiser toute la chaîne du début à la fin, en termes informatiques. Mais derrière, il faut reconnaître aussi qu'il y a la partie process qui est hyper importante. Parce qu'il n'y a rien de pire déjà que de piloter sur des mauvaises données. Ça, c'est une première chose, parce qu'on prend des décisions et des actions par rapport à ce qu'on consulte. Et par rapport à ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et ça, je le vois par énormément de retours d'expérience. Que ce qui est intuitif, hein, quand je sors le reporting, j'ai beaucoup de clients qui me disent « mais tes chiffres sont faux ». Je fais, ben, ils sont faux, mais dites-moi pourquoi ils sont faux, en fait. Ils sont juste à l'image de la manière dont l'entreprise travaille, en fait. Donc, si tout le monde, en fait, remplit son rôle, finalement, au sein de toute la chaîne, eh ben, les données seront de plus en plus fiables.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à rebasculer la faute sur l'informatique. Vous allez à la poste, si on peut pas vous servir, on dit, ah, c'est pas nous, c'est l'informatique qui marche pas aujourd'hui. Donc là, c'est pareil, le reporting, s'il est pas correct, c'est de la faute de l'informatique parce que les données ne sont pas justes. En réalité, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait aller plus loin et creuser pourquoi les données sont-elles fausse et aller à la source finalement. Et est-ce que l'informatique décisionnelle nous aide à identifier la source des erreurs et à aller chercher comment la rectifier?
Alors, oui, ça va pointer du doigt les lacunes de process qu'il y a. Après, c'est l'action humaine de remettre en place le bon process. Je m'explique. Là où, en fait, un dirigeant connaît de manière macro la structure finalement de son business, là où il y a les principaux coûts et les principaux ressources. Là où il va pointer du doigt, mécaniquement, dès que le premier reporting va sortir, il va savoir pointer là où est-ce qu'il y a des chiffres qui l'interpellent. Voilà, ça c'est une première chose. Et comme on est toujours en analyse en entonnoir, il va creuser un petit peu, il va rentrer dans l'information pour aller pointer du doigt des choses qui ne lui conviennent pas, on va dire, hein, fonctionnellement, et des choses qui l'interpellent. Et suite à ça, on va expliquer, en fait, de manière assez pédagogique, du coup, d'où viennent ces informations, comment, en fait, elles ont été manipulées et d'où est-ce qu'elles viennent. Et à partir de là, ça permet de pointer du doigt la lacune de process qu'il y a sur ce pan-là. Après, aux dirigeants et à tout un ensemble de personnes, on va dire ça comme ça, de mettre en place ce nouveau bout de process, soit par le biais de contrôle, soit par le biais, finalement, de process humains.
Et alors, le problème, c'est bien souvent ça, c'est qu'on n'ose pas aller jusqu'à c'est la faute de un tel, parce qu'en fait, il y a des humains derrière, et on aimerait mieux que ce soit la faute de l'ordinateur plutôt que de la faute de l'être humain.
Alors, oui. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas d'anomalie sur ce qu'on paramètre, etc. J'ai pas de sujet avec ça et je suis complètement confortable. Parce que déjà, il faut partir du principe que des bouts de process ne pourront parfois ne pas être adressés en tant que tels. Parce que pour des raisons opérationnelles, et ça on le comprend, on n'est pas complètement robotique, hein, tous tels que nous sommes. Et on sait aussi, voilà, pas encore, on sait aussi que le besoin business et les besoins business vont beaucoup plus vite que l'informatique. C'est normal parce qu'à un moment donné, sans besoin métier, je vais dire ça comme ça, il n'y a pas de projet. Donc en fait, on n'existerait même pas, nous.
Ah, c'est très très intéressant là, ce que vous venez de dire à l'instant, parce que moi j'avais parfois l'impression exactement du contraire. Et parfois les clients nous disent le contraire, nous disent l'informatique va trop vite, vous venez de me vendre un data warehouse, maintenant vous venez un data lake, et puis un data machin, et puis un data truc. Les clients, eux, ils ont l'impression exactement inverse, que l'informatique va trop vite par rapport à leurs besoins.
En fait, ce qui se passe, c'est que chacun regarde sous son prisme, je vais dire ça comme ça. Nous, on est côté, alors je vais faire un raccourci aussi, on est côté technique. Okay, moi-même, je suis côté IT, je vais dire ça comme ça. Le métier, lui, il a son besoin où il va parler vraiment business, business, business. Et donc, du coup, peu importe les moyens, lui, il a son besoin, grossièrement. Et nous, on va s'affirmer au travers des moyens, justement. Et comme côté métier, c'est peu importe les moyens, mais sauf que nous, on est obligé d'expliquer toute la démarche pour qu'ils comprennent un petit peu là où on veut aller par rapport à son business. Voilà, il faut vraiment réussir à aligner les deux et trouver un juste équilibre, justement. On pourra couvrir un grand bout du besoin d'un client, on ne pourra pas couvrir la totalité de son besoin, si on peut, tant mieux, mais bon, ça j'y crois, j'ai arrêté d'y croire après 15 ans. Et à contrario, il faut aussi avoir un discours très vulgarisé pour qu'à un moment donné, quelqu'un de lambda comprennent ce qu'on a besoin de mettre en place. Et ça, en fait, c'est vraiment toute la difficulté de notre boulot. C'est prendre des choses qui sont très très complexes et de les rendre assez simples en manipulation, en bout de chaîne.
Alors, un sujet qui revient, j'imagine, à chaque fois dans la bouche de vos clients et en particulier des dirigeants, c'est ça sert à quoi de mettre en place tout ça? Sous-entendu, ça me rapporte quoi? La fameuse question du retour sur investissement. Retour sur investissement, des solutions de business intelligence. Est-ce que ça a du sens même de se poser la question? Parce que moi, j'ai jamais entendu personne qui me posait la question du retour sur investissement d'un logiciel de comptabilité. Parce qu'en fait, il n'a pas le choix. Parce qu'il est bien obligé légalement de sortir une comptabilité à la fin de l'année. Piloter l'entreprise, c'est comme si on disait, tiens mec, c'est quoi le retour sur investissement du cockpit dans un avion? C'est vrai que ça sert à rien. Ça sert juste à piloter l'avion. Ben, la BI, c'est pareil, non?
Exactement. Néanmoins, on a... Après, je vais le dire comme ça, c'est plus l'homme en tant que tel. Quand on est dans une TPE, voilà, je vais y aller peu de crescendo. Quand on est en mode TPE, on peut se faire ses propres outils de manière simplifiée. On va utiliser Excel, on va faire, voilà, il n'y a pas besoin de vraiment plus. Quand on arrive sur un stade de PME, on va toujours avoir le même mindset, ok, où on va se dire, finalement, je peux le faire moi-même et sur le papier, ça me coûte rien. Je vais aller jusqu'au bout, hein, de mon explication. Sur le papier, ça me coûte rien, je vais le faire moi-même. Quand on arrive maintenant à cheval entre de la PME et de l'ETI, voilà, là, c'est plus la même histoire. On commence à avoir beaucoup plus de volume et on se dit toujours, je vais le faire moi-même. Sans tenir compte qu'à un moment donné, le faire soi-même, c'est prendre le temps soi-même de faire les choses. Et à un moment donné, un dirigeant a plus de plus-value à faire d'autres choses que produire de reporting. De la même manière que chaque collaborateur, donc si on redescend l'information, hein, au niveau de la direction financière, au niveau du contrôle de gestion, ils ont beaucoup, entre guillemets, mieux à faire que produire des chiffres pendant un demi-mois, clairement. Et en fait, c'est ni plus ni moins que ce raccourci qu'on fait, où on se dit, ça me coûte rien du tout, parce qu'en fait, on voit pas le temps. Et l'investissement, pour le coup, je ne vais pas même parler de coûts qu'on met sur la tête des collaborateurs juste pour produire des reports, pour avoir des chiffres approximativement justes. Et maintenant, du coup, je vais plus le considérer comme un investissement nécessaire, okay, d'investir dans ce genre de solution pour, à un moment donné, nous dégager du temps, donc du coup, du temps des collaborateurs pour faire de l'analyse, okay, pour aussi faire de l'analyse qu'on appelle de l'analyse à la volée. Si à un moment donné des choses nous interpellent, on peut, voilà, regarder la donnée de manière plutôt simple, mais surtout quand on prend une décision, quand on attend quasiment, moi j'ai des clients qui avant la mise en place de système clôturaient en un mois et demi. En un mois et demi, c'est trop tard en fait. Et là, on est déjà, et en plus le sujet s'est encore plus stigmatisé à un moment donné au Covid, où tout le monde était en mode rolling forecast. Rolling forecast, c'est juste réestimer pour voir comment on va atterrir à la fin d'année. Et sur ce principe-là, bah, tout le monde était en mode panique à bord.
Alors,
et c'est là où on voit vraiment aussi que là, il y a une grosse lacune par rapport à ça.
Lorsque vous parlez de tous ces gens qui travaillent sur les reporting, sur l'analyse de données, en effet, moi je vois très bien, hein, quand on va à la Défense, on voit des tours de bureaux remplis de centaines de personnes qui sont là pour prendre des données dans une feuille Excel et les mettre dans une autre feuille Excel. C'est loin d'être optimisé. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui tout ça, on peut l'automatiser. J'ai bien entendu votre idée de dire on va décharger ces gens-là pour leur faire faire de l'analyse. Bon, en même temps, ils sont pas tous capables de faire de l'analyse. Et puis, il y a un moment où il n'y en a peut-être pas besoin de tous ces gens-là pour faire de l'analyse. Est-ce que quand même, si on est honnête, automatisation de l'analyse financière ou automatisation des tâches préparatoires à l'analyse financière, est-ce que ça ne veut pas dire quand même suppression d'un certain nombre de postes?
Voilà, sujet sensible. Mais la réponse est... À demi-mot, oui. Ça veut dire qu'à un moment donné, alors j'étais dans une entreprise, je ne vais pas la citer, hein, mais quand je vois qu'ils étaient une vingtaine de contrôleurs de gestion qui manipulent les fichiers Excel, et que en gros, ben, ce qu'ils font, si on mettait un système en place, ben, on pourrait diviser au moins par deux, on va dire, numériquement, ces personnes. Mais à côté de ça, c'est peut-être les faire basculer sur d'autres postes aussi. Voilà, là on se dit juste qu'on est en train d'optimiser un service et rebasculer peut-être là où il y en a besoin, mettre aussi les ressources au bon endroit.
C'est peut-être aussi parce qu'on a appelé contrôleurs de gestion des gens qui contrôlaient pas grand-chose et qui finalement étaient des opérateurs Excel.
Vous voulez qu'on soit des ennemis?
Non, on n'a pas cité de nom, mais en fait, non, mais moi je le dis parce que j'ai cette impression-là à chaque fois que je vais à la Défense. Quand je vois tous ces milliers de personnes qui sortent du RER ou du métro et qui rentrent dans des tours de bureau sur lesquels il y a des PC et sur chaque PC il y a Excel, j'ai l'impression d'être dans ce monde un petit peu ubuesque. On
Ouais,
pourrait presque
je comprends.
faire un film là-dessus avec des gens qui, toute la journée, vont prendre des données pour les mettre dans un autre truc.
Alors oui, il y a une grande partie de ça. Après, pour rebondir sur les personnes qui sont à la défense, je pense que c'est plus des personnes qui sont IT. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils interviennent pour le compte, bah, de très très grands comptes. Et là, pour le coup, mettre en place ce genre de solution, comme en fait, il y a énormément de filiales et la complexité, encore une fois, elle est pour le coup très technique, parce qu'on va prendre énormément de systèmes d'information, on va venir les harmoniser pour leur faire parler à la fin sur un même langage. Et là, du coup, il y a vraiment besoin d'une armée, parce que du coup, chaque spécialiste de son outil doit donner un peu son input pour qu'on puisse, voilà, créer ce qu'on appelle des bonnes règles de réconciliation, de gestion, pour à la fin avoir un reporting qui se trouve être uniforme au niveau de la direction du groupe. Et quand on parle d'un groupe, cette fois, c'est énormément d'entités. Ça veut dire que, imaginez que vous avez une cinquantaine de filiales, multipliées à minima par un ou deux systèmes, vous avez 100 systèmes d'information à venir réconcilier en bout de chaîne. Là, ouais, c'est parfois un vrai panier de crabe.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que on disait tout à l'heure, Prodware, c'est aussi un grand intégrateur de RP. Et mon âge avancé fait que j'ai connu les années 90 où on a commencé à vendre beaucoup de RP. Et c'était déjà un peu le discours. Normalement, c'était pas à l'ERP de faire ça. On disait, bah, l'ERP, il va intégrer tout ça. On va avoir un seul système d'information. Et j'appuie sur la touche pour comptabiliser une facture. Et hop, tout ça se déploie. Et j'ai mon tableau de bord qui est à jour en temps réel. En fait, on nous a menti depuis 30 ans.
Non, non, non. Alors, du coup, je vais recontextualiser un petit peu le tout. Un ERP, c'est hyper important dans une entreprise. Ça permet effectivement, dans les grandes masses, de rationaliser tout un processus et de le rendre hyper fluide. Effectivement, quand on va saisir une commande, jusqu'à la facturation, jusqu'au suivi, tout ça va se retrouver dans le ERP. Néanmoins, pour des tâches assez spécifiques, comme je vais prendre par exemple la direction commerciale, okay, ils vont avoir besoin d'une CRM à côté. Même si parfois on a des petits modules CRM dans le ERP, ça reste des petits modules d'appoint, c'est pas le ce qui sa fonctionnalité première, voilà. Et donc on va venir raccrocher finalement cette CRM à l'ERP. À côté de ça, on va avoir un outil de planification budgétaire, justement, qui ne se trouve pas dans l'ERP. Dans l'ERP, on va juste prendre des flux comptables dans le cadre que je vous cite, et on va les remonter pour faire un compte de résultat, un bilan, une trésorerie. Et par rapport à ce qu'on va remonter dans le système en bout de chaîne, donc ce qu'on appelle un EPM par exemple, on va faire toute la partie planification budgétaire. Mais par contre, dans le quotidien, un ERP, c'est hyper important. Et en plus, je vais aller plus loin, on a encore pas mal de sources, mais si on n'avait pas un ERP, on aurait encore plus de sources en fait à intégrer. Donc du coup, ça vient déjà combler une grosse lacune qu'il y avait à l'époque, on va dire. Après, voilà, rien n'est parfait.
Alors, on a pas mal parlé du reporting, donc et de cette capacité à automatiser la construction du reporting. En même temps, le reporting, moi, j'essaye toujours d'expliquer que ça sert pas à grand chose parce que c'est un rétroviseur. C'est quelque chose qui vous dit ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prévoir. C'est ce qui va se passer demain. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait automatiser également cette analyse prédictive et la construction de prévisions?
Alors, je vais employer deux termes, enfin trois termes. Le premier, le report, effectivement, c'est le passé, mais il est hyper important parce qu'il permet de structurer, de savoir la structure de son business, clairement, chez qui on vend, comment on vend, quels sont les grands comptes, là où on intervient le plus, là où on est bon, là où on est moins bon. Et ça, c'est hyper important. Par rapport à tous ces paramètres-là, et ça, c'est juste les paramètres interne qu'on a, ce qui est aussi important, c'est de savoir se benchmarker par rapport au marché dans lequel on est. Imaginons, je vais prendre exprès cet élément-là, on fait une croissance de 5%. Ok, on est super, on a fait une croissance. Par contre, le marché a fait une croissance de 10%. Donc on sait qu'on n'est pas très bon. A contrario, On a diminué, en fait, voilà, on a fait une moins bonne performance, on a fait un moins 1, moins 2. C'est pas bien sur le papier. Par contre, là où on regarde le marché, il en recule de moins 10. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Il faut vraiment regarder par rapport à un contexte global et juste pas. On a tendance à ne regarder que le bout de son nez, grossièrement. Hein.
C'est-à-dire
Et.
concrètement, rajouter des données externes pour qu'on puisse comparer. D'accord.
Exactement. Et ça, c'est hyper important. Par rapport à ça, on va faire, une fois qu'on a la connaissance de la structure de notre business, de la prévision. Ok. De la prévision, c'est on s'appuie sur des éléments sur le papier quand même tangibles, okay, ce qu'on appelle des inducteurs. On va venir faire de la planification opérationnelle. Et par rapport à cette planification opérationnelle, ça va venir se valoriser pour regarder un petit peu comment l'entreprise va fonctionner sur l'année qui vient ou sur les 5 futures années. Ça, c'est plus un business plan. Ça, c'est de la prévision avec des inducteurs. Et en fait, voilà, dans le monde de l'informatique, on a rajouté maintenant de la prédiction. Voilà. Et alors là, je suis plus mitigé sur le sujet. Pourquoi? Parce que du coup, il fait de la prédiction qui peut être juste, hein, j'ai pas de sujet avec ça, mais je pense qu'il n'y a rien de plus anxiogène de nous jeter un chiffre sans justification. Je pense que l'homme a besoin de savoir le chiffre qui est sorti, comment il a été sorti. Et pas juste, OK, il y a un algorithme qui tourne et je ferme les yeux et je vous fais confiance. Ouais, ça c'est plus compliqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout le business tourne indirectement dans la tête de quelqu'un qui a fourni un algorithme. Mais à la fin, on se rend compte quand même, dans les faits, qu'en fait, c'est juste mécaniquement, au moins pour cette partie planification budgétaire, hein, qu'il a pris une sorte d'historique un petit peu sur les X dernières années lissées, donc ça reste quand même assez proche des prédictions qui vont être faites.
Oui, parce qu'aucun
Donc là.
système n'est capable de tout seul, sans données, imaginer vers où
Ouais.
va aller l'entreprise. Donc c'est, même si l'algorithme est peut-être un peu
Exactement.
compliqué, il reste basé sur la réalité du reporting. D'ailleurs, ce qui veut dire, si on en parlait juste avant, c'est que si mon reporting n'est pas juste, mes prédictions vont être complètement fausses.
Exactement. Et on en revient toujours pareil. Process et homme.
Tout à fait. Et ça peut être d'ailleurs un peu la conclusion, parce qu'on parlait tout à l'heure de retour sur investissement. Est-ce que le principal retour sur investissement d'un système décisionnel, ce ne serait pas tout simplement de nous permettre d'identifier là où on a des données incorrectes et de les améliorer, et donc d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que ça ne justifie pas juste avec ça?
Alors, oui, ça justifie en grande partie. Maintenant, il faut vraiment comprendre, et ça, je pense qu'on n'en a pas conscience, parce qu'en gros, on n'arrive pas à le matérialiser à proprement en parler, mais ce genre de système, en fait, c'est fait pour faire gagner des sous à l'entreprise, que ce soit pour réduire les costs d'un côté, donc, parce qu'à un moment donné, on a vu qu'on est en surstock, on coupe les costs d'un côté, ou en fait, on voit qu'à un moment donné, on n'a pas assez acheté parce qu'on a trop vendu, etc. Et bah, du coup, on va augmenter en fait toute cette partie ressources. Et on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est d'avoir finalement ce genre de système, juste, bien entendu, ça permet de prendre les bonnes décisions, mais à la fin, on fait gagner de l'argent à l'entreprise, que ce soit en diminuant les coûts d'un côté et en augmentant les revenus de l'autre. Donc, c'est hyper important.
C'est ça d'ailleurs qui est fantastique dans le décisionnel. Un de mes clients, il y a de nombreuses années, m'expliquait ça. Il me disait, le décisionnel, c'est fabuleux parce que finalement, en période de crise, on en a besoin pour réduire les coûts, et en période de boom économique, on en a besoin pour gagner plus. Donc finalement, le décisionnel, c'est le truc dont on a besoin, quelle que soit la période économique.
Ouais, et malheureusement, il n'est malheureusement pas toujours à sa place. Ça veut dire que quand je donne l'exemple, justement, hein, je suis chez Prodware, dans une grosse boîte ERP, projet de plusieurs milliers de jours, là où le client veut mettre seulement, je consulterai, hein, 10 jours sur la partie report au début. On a envie de dire, mais vous mettez un système, vous mettez 2500 jours en place pour plein de process dans tous les sens, et vous voulez mettre seulement 10 jours, le ratio est parfois
Est-ce
complètement
que
aberrant.
vous avez une idée de ce qui serait le bon ratio? Ce serait quoi, 5%, 10%? Est-ce que ça pourrait s'exprimer de cette manière-là?
Alors en termes de ratio, quand j'avais fait mes calculs, on était sur entre 15 et 20% d'un projet ERP, grossièrement.
D'accord. Donc 15 et
Et
20% d'un
voilà, on se
projet
rend compte.
opérationnel pour s'occuper de la partie décisionnelle finalement.
Exactement.
Parfait,
Exactement.
parfait.
Là où les gens ne voient
Ben
pas tout.
écoutez, Davidine, merci beaucoup. C'était passionnant. On a parlé de comment automatiser cette analyse financière et puis on a parlé des vrais problèmes. Je crois que ceux qui vont nous écouter vont apprécier qu'on n'ait pas, comme on dit, mis les choses sous le tapis. On a abordé les vrais sujets et préoccupez-vous plus de la qualité de vos données, de la place du reporting, donc du budget en pourcentage que vous accorderez à tous ces sujets-là. Et ça vous permettra de mieux piloter votre entreprise. Davidine, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes responsable de l'activité data chez Prodware France, qui est un gros intégrateur spécialisé dans plein de choses, dont la business intelligence. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt sur Décidéo pour de nouvelles interviews.
On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.